une machine broyeuse, vous les réduire en masse et en particules. Pendant tout ce processus, je fais de l'hyperventilation, aspirant de l'oxygène tant que possible, en tournant et en tordant dans un espace clos en rouge, inhalant toutes les molécules dans ce monde disponible. L'oxygène, ce mince flux de vie, doux et frais, que j'adore. Elle a un peu son cou, elle m'a laissé vivre. Avec ma grosse tête molle, j'ai essayé de mettre en douceur. Elle m'a expulsé en fanfare avec des rafales de jurons. Si j'avais eu le choix, je serais resté à l'intérieur. Elle était contente que je sois sorti de sa vie et que je mène la mienne. Elle s'est mis du rouge à lèvres et a quitté l'hôpital. Ce fut une période désagréable. Où était son odeur? Le son de sa voix me manquait, qui dans ses entrailles se répercutait jusqu'à moi. Je m'étais habitué à son ton nasillard. Parfois, elle chantait. Nos drogues me manquaient, quelles qu'elles fussent. De la tétine de caoutchouc tenue de mauvaise grâce par l'infirmière sortait une nourriture hyper propre. Au début, je la refusais, réclamant celle à laquelle j'étais habitué. Vexée, l'infirmière a arrêté les frais. En manque de tranquillisant et dégoûté de la bouillie, j'aurais bien pris une cigarette. Pas de peau là non plus. À ma droite et à ma gauche, des gens s'égosillaient. J'ai essayé d'en faire autant. demandant si le reste de son corps finira lui aussi par perdre la couleur noire. L'homme se met à rire gaiement, un rire où ricoche plein de cas quand l'air racle le palais. Ses épaules tressautent de joie. James! James! C'est votre premier nègre, hein? Ça ne va jamais vu un nègre avant. Ça n'est pas peur, hein, Jay? Il se faufile vite à l'intérieur, effrayé par les grilles. Qui c'est que vous voulez voir? Un bébé, dit Little Duck. C'est au troisième. James manœuvre la poignée, les croisillons s'aplatissent, les grilles se ferment dans un bruit d'acier lubrifié. L'impression d'avoir l'estomac en vrille fait comprendre à mon frère et à ma sœur qu'ils sont en train de bouger, mais ils ne savent pas s'ils montent ou s'ils descendent. Ils se collent à la paroi pour ne pas perdre l'équilibre. Quand les portes s'ouvrent sur les murs roses du service de pédiatrie, Little Duck et Jima n'osent pas sortir. Ils ont peur. aussi compulsivement qu'une paramécie. Les gens qui nous observaient ne comprenaient peut-être pas plus que nous-mêmes pourquoi nous étions à tel endroit à faire telle chose. Mais nous savions que nous avions besoin de cette chose, et donc nous la trouvions, quelle qu'elle fût. S'il s'avérait que nous avions faim, nous mâchions une ceinture. Nous sucions les ourlets de coton de nos vêtements. Nous mangeions de la vase. Nous buvions les particules de l'air. Nous devenions alertes. Assis sous les arbres l'après-midi, nous avions des hallucinations. La suite d'hallucinations, c'est la drogue des Maoris. Assis sous l'arbre, nous regardions tomber la nuit, attendant que le 21h49 nous apporte félicité et occupation. Le pont d'automne reliait de la nuit Chicago à Omaha et Kansas City, transportant du charbon, des céréales, du bois et du papier. Nous l'entendions venir de 40 km de distance. Ça commençait par une vibration dans le sol qui nous chatouillait et nous picotait les pieds. Nous nous approchions de la voie et agglutinés en un petit tas poussiéreux à côté du grand signal en X, nous attendions, calmes et silencieux, avec la même fièvre que s'il s'était agi de sexe ou de nourriture. Dans un grondement qui vous engloutissait tout entier, une ondulation sur deux tons surgissant de l'est, 60 wagons surchargés fonçaient vers nous. Le machiniste, en nous voyant, actionnait son sifflet. Nous agitions les bras. Le convoi défilait interminablement, effaçant tout ce qui existait de l'autre côté de la voie, encore que les éclats de nuit aperçus entre chaque wagon laissaient supposer que le monde existait toujours. Cela durait si longtemps que nous oublions tout sauf le train et ses lourds wagons fermés. Et puis c'était fini. Sur un ultime grondement, il plongea dans une crevasse, à la courbure de l'univers. Nous nous sentions meilleurs, l'impression d'avoir le cerveau corrigé, l'âme purifiée en profondeur. Bonté et stabilité nous étaient données par l'Iowa. Année après année, nous nous tenions derrière la clôture, environnée de l'Iowa, sa terre compacte et luxuriante, fine et noire, une étendue limoneuse de 300 km de large. Nous regardions se succéder les travaux, chacun en son temps. Cela commençait toujours au printemps par une rumeur lointaine. Le bruit qu'aurait fait un jouet. Un tracteur pour enfants. Brum, brum. Au coton, la machine progressait méthodiquement, aller et retour, retraçant sur la vaste étendue des rangées parfaitement parallèles. Elle labourait la terre noire comme du charbon, un noir dense, un noir propre, pas celui de la crasse et du désespoir, mais le noir alluvial, le noir de la richesse, le noir du pétrole. Ensuite venait le temps des semailles, l'attente angoissée de la pluie. Des petites plaques de métal vert sur les piquets des clôtures indiquaient l'espèce des graines, mais nous ne savions pas lire. Les premières pousses d'un vert vif et tendre semblaient surgir en l'espace d'une nuit. Une par graine, donnant au champ une teinte indescriptible, la couleur d'un souvenir, d'une bulle qui éclate. Quelques semaines s'écoulaient, et des plants de maïs en ordre de bataille couvraient le sol jusqu'à l'horizon, dans toutes les directions, des rangées de centaines de mètres de long, bien droites, sans le moindre décroché, même si une légère anomalie perturbait la rectitude du terrain. Soudain, les plants avaient un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds de haut. Maintenant venait l'époque interminable de la culture. L'aspersion entre les rangées d'engrais coûteux à grandes giclées sortant d'un bidon toxique. Maintenant venait la désherbe. annonce pressante de fin juillet, une vague d'ouvriers agricoles débarquerait dans les champs, sans trêve par les matins de chaleur blanche et les après-midi torrides, garçons et filles en chapeaux ou foulards de couleurs vives se livraient à la castration du maïs. Appuyés à la clôture, silencieux, pieds nus et couverts de poussière, nous les regardions, enfants qui semblaient ne pas appartenir à ce monde. Ces garçons et ces filles de la ville avec leurs baskets blanches, leurs montres poignées en or, leurs fringues et leurs coups de soleil, nous mettaient dans la l'aise. Nous étions contents de les voir partir. Soulagés à la vue du fermier déboulant dans le champ sur son immense machine. Enfin venait la moisson, la joyeuse épreuve dont tout dépendait. Le fermier travaillait de l'aube au crépuscule. S'il passait la nuit, nous savions alors qu'il pleuvrait le lendemain. La récolte terminée et expédiée au silo, il ne restait plus que des tiges raides, sèches, d'un pied de haut, crissant au vent. Nous étions fiers de notre fermier. Seul un homme rigoureux et aimant la nature, un homme voulant n'être qu'un point sur le vaste horizon, à chaque jour suffit sa peine, seul un homme physiquement fort, pesant ses mots, refusant de céder aux sentiments, désirant affronter les risques avec modestie et stoïcisme, trouvant dans le travail tout ce qu'offre la vie, réconfort, plénitude, sport, défi, endurance, harmonie, compagnonnage, science, art, incertitude. Seul un tel homme était capable de cette magnifique, héroïque soumission au temps et au sol. L'agriculture, c'est le coup de poker camouflé en discipline, l'impiété déguisée en dur labeur. Avec l'automne venait l'anxiété. On manquait le bruit significatif du tracteur dans le champ, ces hoquets qui pour nous exprimaient la conscience de l'Iowa. Allongés sous notre arbre au soleil de midi, bonne soirée sur Canal Sud.